Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Maxime Dupuis, vous êtes sur Eurosport dans le FC Stream Team. Ne lui parlez surtout pas de Bellegarde, de Tchouaméni, de Laborde ou de Gouiri, il en fait des cauchemars depuis une semaine. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, la finale face à celui qui lui disputait le titre. 4-1, ouais, 4-1, il n'y a même pas eu de match, une raclée des familles. Ses espoirs à mon petit gazon se sont envolés, tant bien que mal. Il s'est accroché avec son petit niveau et son maigre talent, mais pas assez intraitable, il a trouvé meilleur que lui. Mais continue, tu y arriveras un moment ou un autre, simplement pour l'instant, bah, hey, t'es pas champion. Sa première réaction tardive, il faut le souligner, fut celle-ci. Ce jeu, c'est de la merde en barre. On aurait dit du Roy Keane après une défaite face à City ou Tonton Jeannot après une partie de Monopoly conclue par une victoire sans appel de Tata Janine. Non, ce cri du cœur, teinté de tristesse et une forme d'amertume, est sorti de la bouche de Martin Mosnier lundi dernier, évidemment. Alors moi, j'ai une seule question à te poser, Martin. Alors que tes bonnes saisons sont aussi rares que tes visites à la salle de sport, et comment ça va aujourd'hui ?
Bah, ça va mieux que toi puisque j'ai terminé devant toi. Donc de toute façon, ça c'est mon premier objectif de la saison. Donc ça, il n'y a aucun souci. Après, grande félicitation à Geoffrey Stein, hein, qui s'il nous écoute, qui a terminé devant moi. Il le méritait, il m'a battu 4-1, il n'y a rien à dire. Bravo. Et bravo à mon petit gazon qui nous régale tous les week-ends. Je n'ai aucune amertume, Maxime, puisque j'ai terminé devant toi. Donc il n'y a aucun souci. 5-0, 4-3, on rappelle les deux victoires sans appel. Non mais c'est vrai.
4-3 sans appel. Non mais en plus... Là, je peux pas, tu vois, sur mon téléphone, j'ai les emojis que tu as envoyés juste après ta défaite. Et c'est compliqué de les mettre dans ma bouche. Ouais. Donc, voilà, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a une forme d'amertume voilà, face à cette finale qui ouais, a
tout
été...
simplement, avec un petit peu de recul, j'ai compris où était l'essentiel. L'essentiel, c'était de terminer devant toi. Donc, l'essentiel est assuré. Donc, il n'y a aucun souci. Je peux terminer 7e si tu es 8e. Ma saison est réussie, Maxime.
Après, le vrai problème, c'est statistiquement, ta prochaine bonne saison, c'est dans 10 ans, on est d'accord.
Mais non, arrête, ma prochaine saison, c'est dans 10 ans. Je gagne une fois tous les 4 championnats, en gros, globalement.
Donc, on en a fait une dizaine, t'as gagné combien de fois ?
Bah, une fois, donc...
Il y a un problème de statistique.
Non, mais ça arrivera très vite, ça arrivera bientôt. J'espère que vous allez tous bien, déjà. Merci de nous suivre, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur Facebook... que ce soit sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de cette émission. On est très heureux de vous accueillir. Les chiffres du podcast étaient pas mal la semaine dernière, je crois. Et on a dépassé, Maxime, le million d'écoutes en un an.
Ouais, un million d'écoutes en un an, parce que vous savez très bien que l'émission existe depuis 5 ans en vidéo et que le confinement nous avait obligés à faire quelques petits ajustements par podcast. Et puis, un million en un an, c'est plutôt pas mal. Donc, on va viser maintenant les 2 millions dans 6 mois.
Ça va être compliqué. Si avec l'euro.
Ah, c'est possible. Avec l'euro,
on espère. Alors, l'euro, justement, on va en parler de façon détournée, mais on va parler beaucoup d'équipe de France, beaucoup de sélections, évidemment, puisqu'on est en plein dans la trêve internationale. On va parler équipe de France, équipe d'Allemagne dans ce FC Stream Team. On va démarrer cette émission avec un sujet. On a voulu un petit peu s'amuser avec Maxime. Antoine Griezmann a marqué. Je crois qu'il revient à la 4e place du classement des meilleurs.
3e place.
3e place, pardon, des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il est ex-aequo avec David.
4e place, pardon.
4e place, donc j'avais bien raison. Merci, Maxime. Ah oui. Alors, quand tu me coupes, essaye de ne pas dire trop de bêtises, Maxime. Hein, déjà, première chose, ne me coupe pas. Mais alors, quand tu me coupes, essaye de ne pas dire de conneries.
Tu sais, moi, j'ai arrêté mes chiffres à 2007 avec Henri devant Platini, devant Trezeguet. Voilà. Pour ça que j'ai du mal à voir les autres qui avancent. Voilà.
Giroud, tu l'as oublié donc.
Eh bien, pour le coup, oui, je pensais vraiment. Voilà.
Donc, la question qu'on va se poser, c'est, allez, on se projette dans 10, 12, 15 ans, qui sera le meilleur buteur de l'équipe de France ? Parce qu'il n'y a pas que Giroud. On parle beaucoup de Giroud qui va dépasser potentiellement Thierry Henry, mais il n'y a pas que lui qui peut le dépasser, Griezmann, évidemment, et Kylian Mbappé. On se fera une petite projection, une sorte de bond dans le futur, et on verra que ça risque d'être peut-être un petit peu chaud entre les quatre, Henry, Griezmann, Giroud, Mbappé. Ce sera le... premier sujet de ce FC Stream Team. Ensuite, Maxime, on se posera une question. Est-ce qu'un jour, on reverra quatre attaquants comme face à l'Ukraine, titulaires sous Didier Deschamps en équipe de France ?
Ouais, vous l'avez vu mercredi, ça n'a pas vraiment été une réussite. On avait Mbappé à gauche, Coman à droite, Griezmann en soutien et Giroud en pointe. Résultat, un partout face à l'Ukraine. Et on a quand même l'impression que cette formule ne sied pas forcément au bleu, du moins avec ces joueurs-là peut-être, parce que peut-être que quatre attaquants, ça peut fonctionner. Mais on a l'impression qu'il manque quelque chose quand c'est comme ça. Mercredi, il n'y avait pas grand-chose. C'est sûrement pas que de la faute des attaquants, mais on a quand même l'impression que dimanche, au Kazakhstan, on reviendra à quelque chose de plus classique ou de plus russe, pour être tout à fait précis.
Et on terminera avec, avec l'Allemagne, avec David Lortolari, pardon, journaliste spécialiste. Des questions concernant le football d'outre-Rhin. Et on se posera cette question. Qui pour succéder à Joachim Löw? Et pourquoi? Pourquoi la fédération allemande ne se précipite pas sur Jürgen Klopp, hein, champion d'Angleterre, qui a gagné avec des champions, qui est peut-être le coach aujourd'hui le plus en vogue? Et pourquoi c'est pas naturellement Klopp qui prendra les commandes de la Nationalmannschaft après Löw? On en parlera dans la troisième partie de cette émission. Mais Maxime, on va donc démarrer avec ce premier sujet. Griezmann, Mbappé, Giroud, Henri, qui finira meilleur buteur des Bleus?
C'est une bonne question. Je suis content que tu me la poses, Martin. Alors déjà, on va faire un point de passage où on en est à peu près. Enfin, pas à peu près exactement. On est à Thierry Henry, 51 buts. Lui, a priori, il ne marquera plus avec l'équipe de France. Olivier Giroud, 44 buts à la deuxième position. Michel Platini, 41 buts. Lui, a priori, c'est terminé aussi. Et puis après, on voit apparaître évidemment Antoine Griezmann qui a rattrapé David Trezeguet mercredi. D'ailleurs, il faut souligner quand même la qualité de ce but. D'où il déclenche la frappe, c'est exceptionnel. Il y a vraiment tout. On n'est pas loin de son plus beau but en équipe de France, je pense. Et puis, on va redescendre beaucoup plus loin, mais c'est Kylian Mbappé qui, après 40 sélections, est arrivé à la hauteur d'un certain Laurent Blanc qui, lui, avait marqué, il me semble, 16 buts aussi. Donc, il en est à 16 buts à 40 sélections. Et évidemment,
il a 22 ans.
Vous voyez venir, voilà, il est beaucoup plus jeune. Alors. C'est une course qui va ressembler évidemment à une course à trois, tout simplement. Le record de Platini, il a tenu 23 ans, il me semble. Le record de Thierry Henry va peut-être tenir un peu moins longtemps. Et on a l'impression qu'il va quand même y avoir une accélération dans les années qui viennent, puisque, comme tu l'as dit, il y a Giroud, il y a Griezmann et puis il y a Mbappé. Moi, je suis à peu près sûr d'une chose, c'est que Giroud va dépasser Henry. Il lui manque 7 buts dans le pire des cas, entre guillemets, en espérant évidemment qu'il lui continue. Giroud joue encore une année, on va dire, jusqu'à l'Euro. Ça fait quand même quelques matchs. Ça peut passer, mais ça passera peut-être de pas grand-chose. Et on en a parlé, Martin, avant. Vas-y, pardon.
Oui, non, je disais que si Giroud, à la fin de l'Euro, est à 3 buts d'Henri, quelque chose me dit qu'il continuera aussi pour ça. Ouais. Et il y a une Coupe du Monde l'année d'après. Donc, c'est très restreint. En fait, le calendrier, tout va s'enchaîner. Donc je ne suis pas sûr. Peut-être qu'à la base, l'idée d'Olivier Giroud, c'était de prendre sa retraite après l'Euro 2020. Comme il a été repoussé d'un an et comme il se rapproche de plus en plus d'Henri, la Coupe du Monde et le record d'Henri, ça lui fera deux bonnes raisons de rester, à mon avis.
Ouais, et je pense qu'on n'aura pas beaucoup des retraites internationales de toute façon après l'Euro, hormis si ça se passe vraiment très mal. Parce que la Coupe du Monde, c'est évidemment unique dans l'histoire. Elle est à un an quasiment. Je pense que les joueurs vont se dire que le jeu en vaut la chandelle d'aller jusque-là. Donc on a Giroud qui, a priori, devrait le passer. On a Griezmann qui n'en sera pas très loin et Mbappé, à mon avis, on va les avoir dans ce ordre-là, c'est très classique, mais à des distances différentes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait aller peut-être plus vite qu'on l'imagine, parce que vous prenez cette saison de l'équipe de France, elle pourrait aller jusqu'à 20 matchs joués. Voilà, tout simplement. 20 matchs, c'est évidemment exceptionnel, c'est lié au Covid, c'est lié au report de l'Euro, mais jouer 20 matchs de sélection, imaginez, c'est un demi-championnat, ça n'arrive jamais. Et c'est aussi dans l'ordre des choses aujourd'hui où on joue beaucoup plus de matchs en équipe nationale qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Songez que Platini, en plus, il arrête sa carrière à près de 32 ans, n'a joué que 72 matchs en équipe de France. Donc aujourd'hui, ces marques-là, ils sont presque anodines quand vous êtes un très bon joueur de l'équipe de France. Donc on peut imaginer que ces trois-là passeront. On a fait des projections, Martin.
On a fait une projection. On a fait une projection en essayant d'imaginer dans combien de temps ces trois joueurs-là prendront leur retraite. On a essayé, et en fait, ce qu'on a fait, on a divisé leur nombre de buts par le nombre de saisons en bleu. Donc en gros, pour Giroud, ça fait environ 5,3 buts par saison en bleu. Griezmann, 4,8 buts. Et Mbappé, 4 buts par saison en bleu. Pour Mbappé, on se dit qu'il va aller sans doute jusqu'au Mondial 2034. Voilà. 2032, non plutôt. Non, 2032. 34, il n'y a pas de... Non, 2034. Il aura alors, si je ne dis pas de bêtises, 36 ans, c'est ça? Ouais. 35 ans si c'est l'été. Olivier Giroud, on le fait aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022, donc jusqu'au Qatar, et Antoine Griezmann jusqu'à la Coupe du Monde 2026 où il aura 35 ans. Donc à ce moment-là, au moment où on a arrêté les calculs, Mbappé 35 ans, Giroud 36 ans et Griezmann 35 ans. Donc, ce n'est pas délirant. Si on ajoute leur nombre de buts par saison, ça nous donnerait le classement suivant et c'est assez serré. Thierry Henry deviendrait le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, toujours avec 51 buts. Ensuite, Griezmann avec 53 buts, donc s'il continue jusqu'au Mondial 2026, à la cadence qui est la sienne actuellement, à savoir 5 buts par saison. Olivier Giroud, 54 buts, donc on voit que c'est hyper rapproché entre Griezmann et Giroud. Et donc le meilleur buteur des Bleus, parce qu'il a démarré très très tôt, non pas vraiment par sa cadence de but, parce que 4 buts par saison, c'est pas énorme. Et on peut même imaginer que l'importance de Kylian Mbappé va grandir au fur et à mesure de sa carrière en bleu. Mais en tout cas, s'il reste dans ses statistiques d'aujourd'hui, qui ne sont encore une fois pas démentielles, et ben rien qu'avec ça, il arriverait à 64 buts, soit 10 buts de plus que le deuxième, Olivier Giroud. Donc, on parle beaucoup d'Olivier Giroud comme meilleur buteur, qui va sans doute rattraper Henry, etc. Mais si on se projette sur le long terme, et c'est très difficile, encore une fois, c'est du foot fiction, parce qu'il suffit qu'Mbappé se fasse les croisés, il suffit que Griezmann ait complètement, ou décide de partir parce qu'il en a marre après l'Euro ou après la Coupe du Monde. Donc il y a plein de si. Mais voilà, on voulait s'amuser un petit peu et se dire que quand même, Mbappé, bah, il a une petite marge quand même.
Ouais, et puis comme tu as dit, Mbappé, il y a 7 ans, 8 ans, on ne le voyait pas venir. Donc on n'est pas à l'abri Exactement. D'avoir un type encore plus fort, si c'est possible, que Mbappé qui arrive et qui prenne la place, tout simplement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la progression des buts. On a dit 64, et on a poussé évidemment sur la moyenne. Ça lui ferait quelque chose comme 160 sélections. Voilà. Mm. Imaginez 160 sélections, Thuram.
Après, il en a 40 à 22 ans, donc c'est pas délirant.
Voilà, et c'est le joueur, oui, voilà, exactement, c'est le joueur qui va le plus vite. Alors évidemment, il y a des matchs qui seront un peu, qui laisseront peut-être un peu de côté dans le futur. Je suis pas certain qu'on aura moins de matchs de sélection. Je pense qu'on aura des matchs plus resserrés dans le temps parce qu'on sait que c'est le grand projet, on va dire, aujourd'hui des clubs qui aimeraient que les sélections joue moins, ça ce sera pas possible parce que la FIFA va défendre ça bec et ongles, mais on aura des rassemblements un peu du style de celui qu'on a actuellement et depuis le Covid, c'est-à-dire avec plus de matchs un peu aussi à la façon du basketball.
Et je pense et peut-être que, oui, des tournois avec plus d'équipes et peut-être des 16e de finale en Coupe du Monde ou des 16e de finale à l'Euro, c'est possible.
Ouais, c'est pas, déjà, c'est pas peut-être, puisque 2026, tu auras une Coupe du Monde avec 48 raison. Équipes. Donc, déjà, tu as grandi et tu as déjà, comme tu l'as dit, l'Euro avec un match de plus et ça aide. On l'a vu que Antoine Griezmann, en 2016, il marque 6 buts, ce qui est exceptionnel, mais c'est plus simple, entre guillemets, de le faire quand vous avez un match de plus et avec des adversaires un chouïa plus faibles. Donc, c'est aussi ça ce qu'il dit. C'est aussi l'évolution du football européen qui dit que, et du mondial même, qui dit que vous affrontez aussi des adversaires moins fort, tout simplement. À l'époque de Michel Platini, on va pas faire un cours d'histoire, mais l'URSS, c'est l'URSS, c'est pas le bloc qui a explosé. Donc vous avez plus de petits adversaires aujourd'hui et donc plus de facilité à marquer des buts, tout simplement. C'est pas parce que Mbappé est forcément plus fort que Platini, c'est aussi parce que le football a changé. Donc voilà, mais 64 buts, ça donnerait quoi? C'est marrant parce que c'est là aussi qu'on se rend compte de ce que fait un joueur comme Ronaldo avec le Portugal qui a passé la centaine de buts.
Ouais, c'est incroyable.
Parce que 64 buts à l'échelle française, c'est impressionnant parce qu'encore une fois, pendant des 20 ans, on a été bloqué à 41 buts, Platini, etc. C'était exceptionnel avec une moyenne à peu près à 0,40 buts par match. Imaginez Ronaldo qui a plus de 100 buts. Alors évidemment, ça a souvent beaucoup joué pour lui. Il n'y a peut-être pas la même masse de talent individuel, même si en ce moment, le Portugal, c'est quand même plutôt pas mal. C'est assez impressionnant. Et voilà, ouais, 64 buts, ça fait quand même une belle marque tout de même.
2034, on ressortira cette vidéo en 2034. Maxime, j'aurai 50 ans en 2034. Là, ça fout un coup dur. Ça fout un coup dur. C'est-à-dire que quand Mbappé jouera sa 5e Coupe du Monde, j'aurai 50 piges. Et alors, sachez que je n'ose même pas, on a eu cette discussion tout à l'heure, je n'ose même pas poser cette question à Maxime Dupuis parce que j'ai peur de la réponse. J'ai très, très peur de la réponse. Je ne suis pas sûr que Maxime, en 2034, quand Kylian Mbappé jouera sa 5e Coupe du Monde, qu'il soit en état de présenter le FC Stream Team. Je ne suis pas sûr. Déjà qu'en 2021, c'est compliqué. Là, vous le voyez à l'écran, vous le voyez assis. Mais il faut voir ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui le soutient parce que c'est très compliqué. Alors imaginez en 2034.
Ah, mais on sera sur la même décennie. Donc
Ouais, on sera sur la même décennie, mais tu seras beaucoup plus loin. Tu basculeras bientôt dans
Non, je serai un peu plus loin. Voilà.
Tu seras un petit peu. Oh, et non, ce serait beau qu'en 2034, on fasse encore le FC Stream Team. Hein.
Je ne sais pas si c'est souhaitable.
Voilà, je crois que t'as très bien conclu ce sujet.
Maxime, et autre chose, c'est que s'il va jusqu'à 2034, il fait 5 Coupes du Monde, Mbappé. Ouais. Donc c'est le record aussi, il faut le dire.
Ouais, ce serait incroyable. S'il les gagne toutes, c'est encore plus fou. Bon, on n'en est pas encore là.
Et, Ah ouais, alors là, c'est au-delà de ça. Et je pense qu'il sera, s'il gagne plus toutes, il a plus de 64 buts, je pense.
C'est possible. C'est possible. Allez, Maxime, on va revenir en 2021. Moi, j'ai pas envie de vieillir, personnellement. J'ai déjà du mal à avoir mon âge. Alors, 50 ans, j'imagine même pas. 2021, France-Ukraine et cette expérimentation qui n'en est pas vraiment une parce que c'était pas la première fois, mais Didier Deschamps avait décidé d'aligner 4 joueurs à vocation très offensive, 2 ailiers, Mbappé, Coman, 2 attaquants, Griezmann, Giroud, ça n'a pas fonctionné. L'équipe de France s'est procurée assez peu d'occasions, on n'a marqué qu'un seul but et la question qu'on peut se poser, Maxime, c'est est-ce qu'un jour on retrouvera une équipe de France avec Didier Deschamps à sa tête avec 4 attaquants sur le terrain.
La réponse est oui, ça arrivera bien une ou deux fois dans les 2 ans à venir. Non, mais je plaisante. Mais je pense que Didier Deschamps... Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il ne fait pas ça pour faire plaisir. Ou je pense qu'à chaque fois, il y croit vraiment. C'est-à-dire, c'est comme l'Australie pendant la Coupe du Monde. Il tente quelque chose parce qu'il se dit bah, l'avenir est peut-être là. En effet, c'est peut-être d'avoir Mbappé à gauche où il est brillant avec le PSG. C'est d'avoir Coman à droite parce qu'il est très bon. Et c'est d'avoir évidemment les 2 inamovibles, Giroud, Griezmann. Mais force est de constater que, par exemple, mercredi, ça n'a pas fonctionné. Alors, à qui la faute? Première chose, on ne peut pas dédouaner Didier Deschamps. Il l'a dit après. En gros, on sent que Shevchenko l'a piégé. C'est-à-dire qu'ils avaient regardé cette équipe d'Ukraine qui ne jouait jamais à 5 derrière, qui ne jouait jamais à 8 sur le but. C'est ce qui s'est passé. Et quand vous jouez avec des joueurs comme ça qui ont besoin d'espace, bah, ça ne passe pas. À défaut d'avoir des espaces, il faut jouer dans les petits périmètres et donner quelque chose, apporter quelque chose. Or, hormis Coman, en gros, il n'y avait pas grand-chose à apporter. Donc, c'est aussi une faute partagée, tout simplement. Moi, mon avis, c'est que Didier Deschamps, enfin, c'est même pas un avis, c'est que Didier Deschamps, on l'a vu depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, il lui arrive de se tromper. On pourrait citer les 7-8 fois où il passe à côté. Mais généralement, la deuxième fois, il passe pas à côté. Pourquoi? Parce que il apprend de ses, entre guillemets, échecs et de ses erreurs potentielles ou de ce qui s'est pas bien passé ou des erreurs de ses joueurs et il change son fusil d'épaule. Donc, je pense qu'au Kazakhstan, on va se retrouver avec ce 4-2-3-1, on va dire, asymétrique, un peu à la russe. Est-ce que ce sera Rabiot à droite? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera Sissoko à droite? Je ne sais pas. Mais je serais vraiment très étonné, en tout cas, que ce soit, les mêmes parce que, encore une fois, il y a des chances que ce soit encore la même chose au Kazakhstan avec une opposition moins forte, évidemment, avec des joueurs qui restent sur leur but. Et vous ne trouvez pas les espaces, tout simplement. Donc, je pense qu'il va y revenir. Et je suis toujours, pour te donner la parole, convaincu que ce qu'on a vu au Portugal avec Rabiot en lieu et place de Matuidi, avec un joueur qui est un peu plus défensif, mais qui apporte peut-être autre chose, est la meilleure solution pour les Bleus, offensivement et surtout défensivement. On se souvient du Mondial 2018. La façon dont l'équipe de France s'organisait un peu asymétriquement, ça marchait à merveille. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer pour faire plaisir, comme dit Deschamps. Alors, il s'est auto-taclé, on va dire, à la fin du match en disant « Ah oui, c'est pas de la PlayStation, oui. » Mais ça, on le sait que c'est pas de la PlayStation. Donc, si l'équipe de France marche mieux avec un joueur un peu plus défensif sur un couloir, il faut jouer comme ça, tout simplement. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
C'est sûr que ce sera la solution numéro 1, surtout dans les grands matchs et surtout pendant les grandes compétitions. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Maxime, je suis à peu près du même avis. Ce qui est curieux de regarder, c'est depuis l'émergence d'Mbappé, combien de fois Deschamps a aligné Coman, Mbappé, Giroud, Griezmann. Et on va se rendre compte que bah, ce n'est pas si souvent. 3 fois, en gros une fois tous les 2 ans. Donc la première fois, c'était France-Pays de Galles, une victoire 2-0 en novembre 2017. France-Moldavie, c'était en novembre 2019. Et ça avait été pas bon du tout, notamment la première période. Ça s'était un peu débloqué en fin de match quand Coman était sorti, mais bref, ça s'était pas bien passé du tout. Et derrière, quelques jours plus tard, je crois que c'est un match contre l'Albanie, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, on a Giroud, Griezmann et Ben Yedder. Que 3 joueurs à vocation offensive et on ferme derrière avec 5 défenseurs, etc. Et là, donc, face à l'Ukraine, les 4 encore, ça se passe pas très bien. Et je pense que c'est pas naturel pour Didier Deschamps, cette composition d'équipe-là. Elle est pas naturelle. Je pense que il y a trois solutions pour ces 4-là. Il y a la solution qu'on a vue en Ukraine, tout pour l'attaque, et je pense que c'est le Deschamps l'utilisera en dernier recours. Voilà, je pense que c'est assez clair. Pourquoi il l'a utilisé là? Je pense que c'est parce qu'il voulait faire souffler Paul Pogba au début du match, parce qu'on sait que Paul Pogba revient de blessure, qu'il avait assez peu joué, il revenait d'un mois d'absence avec Manchester United, il n'a pas voulu prendre de risque. Donc il s'est dit, allez, on tente les 4 là, mais je pense que c'est la dernière solution. La solution privilégiée, c'est donc Rabiot à gauche ou Sissoko à droite. Vous prenez l'un ou l'autre, c'est à peu près la même chose pour équilibrer les 11. Et il y a une solution un peu hybride, intermédiaire, où là, je pense qu'il pourrait y revenir s'il trouve les profils. C'est avec des attaquants, mais au profil plus travailleur. Je pense à un Lemar à gauche, par exemple, si Lemar revient fort. Ou à droite, un Ikoné, un moment qui a eu ce profil-là. Ou un Florian Thauvin aussi, qui travaille un petit peu plus. Mais surtout un Lemar. là, on est sur une solution un peu hybride. Dans la solution tout pour l'attaque, on peut mettre aussi Dembélé, Mbappé, Griezmann, Giroud, c'est la même chose qu'avec Coman. Et je pense que cette situation-là, on la retrouvera rarement, si ce n'est contre des équipes où le niveau entre les deux est vraiment énorme, genre peut-être le Kazakhstan ou voilà, des équipes qui, sur le papier, ont un écart immense avec l'équipe de France. Sinon, ce sera soit la solution hybride, soit la solution, j'allais dire, grand tournoi ou grandes affiches type Portugal avec Rabiot à gauche ou Sissoko à droite, mais plutôt Rabiot à gauche.
Je suis complètement d'accord. J'allais y venir à Lemar. Justement, je pense que c'est l'intermédiaire qui passe bien. Alors évidemment, il faut un Lemar à très haut niveau.
C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas possible.
Le Lemar qu'on a connu. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a le profil. En fait, il a presque un... Je ne vais pas dire qu'il a un boulevard, mais potentiellement, en retrouvant son niveau, il a ce qu'il faut pour jouer sur le côté gauche. Et il y a d'autres avantages seulement à son abattage. Parce que déjà, oui, il va faire du travail. On sait qu'il va se replier. Mais surtout, moi, ce qui m'embête toujours un peu avec... il parlait de football PlayStation. Oui, parce que moi, quand je joue avec l'équipe de France sur la PlayStation, je joue avec des joueurs qui vont très vite sur les côtés pour déborder. Or, dans le football, bah, il n'y a pas que ça. Et il faut des pas de gauche aussi à gauche. Ça peut être utile. Et justement, Lemar, il a cette qualité d'avoir un registre différent. Les coups de pied arrêtés, déjà. Le ballon est éliminé par la passe. Voilà, on est sur autre chose et ça donne aussi une autre solution. Potentiellement, vous pouvez les interchanger pendant le match et ça offre aussi une qualité de football. Et peut-être, justement, prenez l'Ukraine. À un moment, ça ne passe pas dans le dos. Bah, peut-être qu'avec un Lemar dans les petits périmètres, sur un centre, etc., ça serait mieux passé. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a besoin de ça. Et souvenez-vous aussi, la première occasion de Giroud, c'est Rabiot qui décale Hernandez. Et c'est un centre qui arrive, c'est pas en partant de loin, etc. Voilà. Et pour dire que, revenir sur les quatre attaquants, comme tu l'as dit, moi, je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas viable avec cette solution-là, et surtout avec ces profils-là. C'est que si vous avez le ballon, vous n'avez pas d'espace, comme mercredi, c'est très compliqué à trouver et ce n'est pas le truc le plus viable. Si vous n'avez pas le ballon, comme l'équipe de France l'a fait aussi pendant la Coupe du Monde, c'est suicidaire parce que contre une bonne équipe, vous allez prendre des courants d'air. Il faut que Mbappé défende, il faut que Coman défende. Ce n'est pas les deux joueurs les plus adaptés à ça. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'en avoir deux dans une équipe comme ça. Voilà. Et si vous jouez contre une très grosse équipe qui vous prive du ballon, OK, vous aurez des contres. Et voilà, quand il y a la robe de lancement, Pogba, Mbappé, ça marche très bien, c'est formidable et c'est dingue. Là, on l'a vu, l'Argentine, la Croatie, etc. Mais c'est pas comme ça la plupart du temps. Et si vous vous retrouvez justement sans ballon et que vous avez deux joueurs qui ne font pas assez défensivement, vous allez être coincé. Donc je pense encore une fois que la solution se retrouve entre Rabiot et Lemar, tout simplement, voire Sissoko, et d'avoir ce joueur qui a un abattage, qui va venir aider au milieu de terrain quand il y aura besoin, qui fait passer le milieu de terrain à 3, et vous gagnez sur la largeur ce que vous auriez perdu en étant qu'à 2. Donc je pense vraiment que Didier Deschamps reviendra à ça. Et un joueur comme Lemar, encore une fois, je pense, c'est vraiment le prototype du joueur qui irait très bien dans cette équipe. On a beaucoup parlé des Bleus, maintenant on va parler d'une autre équipe qui a aussi gagné la Coupe du Monde, qui a gagné la Coupe du Monde même deux fois plus que l'équipe de France, évidemment, c'est l'équipe d'Allemagne. Alors l'équipe d'Allemagne, pourquoi l'équipe d'Allemagne? Parce que déjà l'équipe de France va la rencontrer au premier tour de l'Euro, mais aussi on a envie de se pencher sur cette équipe qui a un sélectionneur qui ne sera plus là, a priori, peut-être fin juin ou fin juillet, ça va dépendre comment ça se passe, à l'Euro pour l'Allemagne, et on a envie de se poser la question de sa succession. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir David Lortolari. Salut David.
Salut Maxime, salut à tous.
Ça va ?
Très bien, très bien. Et effectivement, il se passe des choses avec la sélection allemande.
Alors, j'ai une question toute bête. Moi, je suis le président de la fédération allemande. J'ai Jürgen Klopp qui est là. Est-ce que je ne ferai pas tout pour ramener Jürgen Klopp ? On sait que lui n'a pas très envie de quitter Liverpool, qu'il ne casse pas ses contrats. Mais en gros, pourquoi, la question est simple, pourquoi la fédération allemande ne fait pas tout pour avoir Jürgen Klopp en tant que sélectionneur de l'équipe?
Alors, c'est évidemment une question pour rassurer aussi nos spécialistes et nos amoureux de foot en France. C'est une question que les Allemands se posent, bien évidemment. Klopp, on veut Klopp pour diriger la sélection allemande. Ça, c'est une certitude. En fait, c'est relativement simple et ça correspond aux règles et à la, comment dire, aux coutumes. C'est-à-dire que Jürgen Klopp est sous contrat avec Liverpool et ça reste un obstacle majeur pour la direction de la fédération en Allemagne. On veut respecter ce contrat jusqu'à son terme et c'est pareil quand on pense à Hansi Flick qui lui aussi est sous contrat avec le Bayern. Il y a la même logique évidemment pour les deux hommes. Et ça veut dire aussi en conséquence de ça que bien sûr qu'on a toujours un œil sur Jürgen Klopp et qu'on veut que Jürgen Klopp dirige la sélection à terme, c'est-à-dire après son contrat et peut-être qu'il faudra attendre 2-3 ans de plus en fonction de ce que fera le sélectionneur qui arrivera cet été.
Et alors, pourquoi on a l'impression qu'Hansi Flick est pourtant plus proche de prendre les rênes de cette sélection allemande que Jürgen Klopp? On a l'impression qu'il y a quand même une campagne Hansi Flick en Allemagne.
Oui, alors Jürgen Klopp, soyons honnêtes et tout à fait objectifs, Jürgen Klopp est intéressé par la sélection et je le répète, à terme. Pour Hansi Flick, c'est pareil, il y a un vrai amour pour ce poste qui est très prestigieux évidemment en Allemagne et il s'y intéresse de près, il est déjà assez chaud maintenant et Dieu sait s'il le sera encore dans le futur, Hansi Flick. C'est simplement parce que Hansi Flick a laissé aussi une excellente signature et une excellente trace de son passage comme adjoint de Jürgen Klopp, de Joachim Löw. Il avait du pouvoir, il avait de l'influence, il avait vraiment, il a réussi son passage comme adjoint et forcément à la Fédération allemande, on se souvient de ça. Et Hansi Flick est aussi un thème de discussion très important. Et s'il n'y avait pas Klopp, il y aurait Flick ou l'inverse, on peut penser. Mais encore une fois, pas tout de suite, à terme.
Alors, en revanche, c'est vrai qu'il y a une différence, on va dire, d'approche, que ce soit Klopp ou Hansi Flick. On sent que Klopp, il se dit, moi, j'ai le temps, de toute façon. Oui. Mais Hansi Flick, on sent que lui, il se dit, bon, ça marche bien sur le Bayern, pour le Bayern, donc il faudrait peut-être y aller tout de suite parce que je suis pas sûr que le train repassera une seconde fois. Et surtout, faut rappeler la durabilité, entre guillemets, des sélectionneurs allemands qui, en général, restent très longtemps, hormis au début du 21e siècle. Klopp, Joachim Löw, c'est 15 ans à la tête de la sélection. Donc on sent que Flick, il se dit, c'est maintenant ou jamais. C'est peut-être la différence avec Klopp, justement.
Exact, Maxime, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette tension récemment avec la présidence au Bayern et Karl-Heinz Rummenigge qui s'est un petit peu emporté en disant mais on serait complètement fou de laisser partir Flick avec les succès qu'il nous apporte actuellement. Ça veut bien dire en creux que Hansi Flick était tenté par la sélection et que la fédération allemande aussi a fait la cour à Hansi Flick. Pour l'instant, le Bayern a opposé une fin de non-recevoir, mais là encore, c'est vraiment à court terme et le thème va revenir, la discussion autour de Flick et Klopp va revenir dans les prochains mois, évidemment.
Et alors, si ce n'est pas Flick, si ce n'est pas Klopp, qui sont tous les deux sous contrat, on pense quoi du côté de l'Allemagne? Si c'est ni l'un ni l'autre, quelle est la troisième voie, j'ai envie de dire?
Alors, il y a deux troisièmes voies. Il y a une troisième voie A et une troisième voie B. La première, c'est celle qui est favorisée par les médias allemands parce qu'il y a un côté un petit peu romantique. Ce sont les grands noms. Et on peut en citer un. Par exemple, ce serait Ralf Rangnick qui a été, vous le savez, en discussion avec Schalke récemment, qui a finalement refusé d'aller à Schalke parce qu'il a estimé que ça n'était pas raisonnable en l'état actuel des choses avec la déliquescence du club de la Ruhr. Mais un nom comme Ralf Rangnick, évidemment, sera toujours en haut de la liste médiatiquement pour venir entraîner, pour venir être sélectionneur de la Mannschaft. Et sinon, c'est la voie en fait la plus évidente sur le plan statistique, celle qui est la plus probable, c'est la voie interne. Et là, messieurs, il y a deux possibilités. Une possibilité avec Stefan Kunst, qui est très très bon, l'ancien attaquant international, qui est très très bon avec les moins de 21 ans, qui a des succès, tournoi après tournoi, année après année. Donc on se dit que Stefan Kunst, ce serait une solution simple et fluide. C'est logique pour lui de grimper, une fois qu'il a entraîné les moins de 21, jusqu'à la sélection des A. Ou alors l'actuel adjoint de Joachim Löw, Markus Zorc, qui lui aussi est rompu un petit peu aux arcanes de la fédération et qui serait aussi une solution interne assez fluide et assez évidente. L'adjoint qui prend la suite du sélectionneur en place, ce serait là aussi assez logique.
J'ai une question sur Rangnick, tu nous as parlé de lui. Il me semble qu'il fait un peu peur à la fédération.
Oui, parce que là encore, quand on évoque Zorc, quand on évoque Stefan Kunst, ce sont des gens qui sont déjà aptes, qui ont déjà fait leurs preuves pour se plier aux demandes des personnes qui sont au-dessus. Ralf Rangnick il a un côté indépendant, il a un côté pionnier, il a un côté inventeur, il a un côté un peu aventurier peut-être, et surtout il aime avoir beaucoup de pouvoir, beaucoup de surface, d'invention. C'est ce qu'il a fait à Hoffenheim, c'est ce qu'il a fait évidemment avec la galaxie Red Bull. Et Rangnick, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait un peu peur, parce que c'est un homme qui a un gros ego, qui a conscience de tout ce qu'il a réussi. Et on imagine des frottements entre égaux à l'intérieur de la fédération. Et je pense que c'est pour ça aussi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça aussi qu'on privilégie que ce serait plus probable, plus logique d'avoir une solution interne qui ne serait pas pour autant, messieurs, une solution à la petite semaine. Hein. Stefan Kuntz, Markus Zorc sont des grands techniciens du foot aussi. Ce seraient des noms moins médiatiques, moins ronflants, moins connus en Europe qu'un Rangnick. Mais ça peut aussi très bien marcher à la tête de la sélection allemande.
Ça ressemblerait un peu à Joachim Löw, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait.
C'est ça, mais quand on voit qu'aujourd'hui, l'école allemande est celle qui fait référence sur les bancs de touche en Europe, on voit par exemple que Tuchel, Klopp ou Flick sont en quart de finale de la Ligue des Champions, pour ne citer qu'eux, mais je veux dire, aujourd'hui, l'entraîneur allemand est la référence. Et prendre une voie fédérale, donc aucun de ces entraîneurs-là, aucun de ces entraîneurs référence. Et c'est aussi, mine de rien, faire un petit pari. Mais ça ressemble à ce que fait la fédération allemande depuis quelques années, effectivement.
Ça fait aussi, on en revient à notre raisonnement du début, ça donne aussi un peu l'impression, on va prendre cela dans un premier temps, comme ça, un peu comme une transition, et si ça marche, tant mieux, dans l'attente de la fin de contrat d'un Klopp, de la fin de contrat d'un Flick, et de ces gens-là qui sont effectivement plus prestigieux. Mais on l'a vu avec Joachim Löw, il n'avait pas été extrêmement fort comme entraîneur avant. Il a fait quelques piges par-ci, par-là, mais il n'avait absolument pas fait ses preuves au top niveau comme entraîneur de club. Et il a été très bon pour diriger la sélection après. Moi, quand j'interroge les entraîneurs en Allemagne, ils ont tous une vision très différenciée de la sélection, qui est quelque chose à part, et des clubs. Juste une petite pirouette peut-être pour finir, messieurs. Mehmet Scholl, qui est un consultant très écouté en Allemagne actuellement, a proposé, non, c'était un autre consultant, mais ça aurait pu être Mehmet Scholl aussi. Ils ont proposé Christian Streich, qui fait un excellent travail avec Fribourg actuellement, qui est pas l'entraîneur allemand le plus connu, mais qui travaille très, très bien aussi. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas pour la sélection? Tout ça pour vous dire que c'est pas forcément Klopp, c'est pas forcément Rangnick, c'est pas forcément Hansi Flick qui vont le mieux passer à la tête de la sélection. Ce sera peut-être un nom un peu moins ronflant, un peu moins connu, mais un bon technicien aussi qui sera capable de s'adapter dans les couloirs de la fédération.
Sinon, il y a Moulin qui vient de quitter Angers. Hein, si vraiment ils veulent vraiment un nom.
Il n'y a jamais eu d'entraîneur étranger d'ailleurs.
Non, on privilégie bien sûr les germanophones et déjà ça réduit nettement le champ des possibles.
Il y a Arsène Wenger, sinon, potentiellement. Et j'ai envie de te poser deux dernières questions très rapides. Il y a un nom dont on n'a absolument pas parlé et qui revient pourtant dans les médias. C'est un ancien ballon d'or allemand. C'est, alors, a priori, il serait poussé aussi un peu par les médias. C'est Lothar Matthäus. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux?
Oui, il faut le prendre au sérieux. Allez, on va dire à moitié. Lothar Matthäus, lui-même est extrêmement intéressé, toujours flatté. Il a un énorme ego avec ses 150 sélections, avec ses records. C'est l'un des tout meilleurs, deux, trois meilleurs joueurs de l'histoire de la sélection. Et évidemment, quand les médias titillent un peu Matthäus, qui est très influent à la télévision d'ailleurs comme consultant, lui dit tout de suite, « Ah, mais moi, je m'organiserai, je serai disponible, appelez-moi, je viens. » Non, mais c'est important quand même parce que il y a ce côté-là, donc ce côté intéressé et volontaire. Mais en face de ça, on n'a pas trop de preuves que Matthäus puisse être compétent. On a vu, il a fait des passages de mémoire en Hongrie, ça s'est pas forcément très très bien passé. Il a jamais été un entraîneur de folie non plus. Donc, ce serait une solution risquée, mais voilà, on est un peu entre deux eaux avec Matthäus. Il est intéressé et on peut imaginer qu'il serait compétent, mais on n'en a pas la preuve.
Ouais. Dernière question, si tu te trompes, tu dois m'inviter à l'Oktoberfest. Qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe d'Allemagne selon toi?
Je vais jouer la cote, enfin je vais l'inverse de la cote, c'est-à-dire le plus probable, c'est Stefan Kuntz, qui encore une fois qui réalise un très bon travail avec les moins de 21. Et pour s'éviter des problèmes, des complications extrêmes, là cet été, si l'Euro a lieu et on espère bien sûr qu'il ait lieu, Joachim Löw va s'en aller et Stefan Kuntz, logiquement, qui fait ses preuves depuis des années, le sélectionneur des moins de 21 devrait prendre la suite de Joachim Löw.
Il sera nommé après l'Euro d'ailleurs, le sélectionneur, ou avant?
Oui, après l'Euro, parce que Löw l'a lui-même expliqué dans sa dernière conférence de presse, il souhaite pour la transition après son départ que ça aille le plus vite possible pour que le nouveau sélectionneur ait le temps de travailler avant la Coupe du Monde 2022.
Parfait. Merci,
merci
David
beaucoup.
Pour tous ces éclairages.
Merci, merci messieurs.
Beaucoup. Merci. Voilà, c'en est tout pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Maxime. Merci Sébastien derrière la caméra. Merci à Quentin aux visuels, les beaux visuels que vous ne voyez que si vous venez sur Facebook ou sur eurosport.fr. C'est vrai que les visuels, du coup, au niveau du podcast, bah, c'est pas. Alors, on demandera la semaine prochaine à Quentin de faire des visuels audio. Ça, ce serait bon, ça. Ça, ce serait bon. Et ça, ce serait
là,
une vraie prouesse.
Là, on tient quelque chose.
Là, on tient quelque chose. Là, on tient quelque chose.
On tient quelque chose.
Merci à tous. Bah, rendez-vous dès la semaine prochaine. En attendant, bah, vous pouvez toujours venir sur Eurosport ce week-end. Il y a du lourd, il y a du très lourd, il y a du vélo notamment, Maxime.
Il y a du vélo, Gant-Wevelgem, pardon, la fin du Tour de Catalogne. Et vous avez évidemment du tennis avec Miami. On va rentrer un peu dans les choses un peu plus sérieuses. Et donc, vous avez un bon petit week-end de sport sur eurosport.fr, voilà, avec tout le reste, avec le football, Kazakhstan-France, la reprise de la Formule 1 aussi, que vous pourrez suivre sur le site avec Stéphane Vrignot. Donc, on vous donne rendez-vous bah, tout de suite sur le site.
Exactement.
On se quitte jamais.
On se quitte jamais, ça, c'est une certitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du UFC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.